revient à la question d'Abraham, père des croyants, puis d'Abraham, père d'Ismaël et d'Isaac. La semaine dernière, j'ai entendu à cette même place le père du puits, à propos d'un colloque littéraire, parler des trois fils d'Abraham. Et je suis tombé du café marqué qu'Abraham avait deux fils.
Très bien.
Et que Abraham n'était pas de la même façon père des croyants et père d'Ismaël, par exemple, mais. Est-ce que vous pourriez, revenant sur ce que vous disiez tout à l'heure, nous expliquer selon l'ordre de génération et selon l'ordre du message divin, la différence, ce que j'aurais pu lui dire et que je n'aurais pas osé.
Bien, je crois que votre premier point est très exact. Il y a deux lignées d'Abraham, c'est Ishmaël et Israël. Et il y a un problème intérieur à la lignée d'Israël, par Isaac, qui est le judaïsme et le christianisme. Et je veux dire, je cherche à résumer cela en peu de temps. Mais je crois que ça vaudrait la peine que nous étudions cela demain matin sur texte. Je veux dire, la problématique actuelle à laquelle nous sommes arrivés, c'est que les deux rivalités se sont dévoilées de notre temps. Ishmaël ne réclame pas d'Israël le ciel, il lui réclame la terre. Je veux dire, le conflit d'Ishmaël avec Israël, c'est sur terre que ça se passe. C'est un conflit politique à qui appartient la terre de la promesse à Abraham. Est-ce qu'elle appartient à Ishmaël ou est-ce qu'elle appartient à Israël? Bon. Il y a pu y avoir des épisodes où la chrétienté a joué à ce conflit-là. Elle voulait installer un royaume chrétien sur la terre sainte. Mais finalement, l'histoire n'a pas pris ça au sérieux, la chrétienté non plus. Et aujourd'hui, il se dévoile que le problème entre la chrétienté et le peuple juif, c'est pas la terre. La chrétienté est prête à faire place sur terre à Israël, le peuple juif, c'est le ciel. Mais nous sommes coincés dans une querelle au ciel avec les chrétiens et dans une querelle sur terre avec les musulmans. Et c'est cette histoire que nous raconte la Bible. Et finalement, on pourrait dire qu'il nous était resté que l'horizon, l'exil, l'horizon, entre le ciel et la terre. Et en fin de compte, on a décidé de retrouver le ciel de notre terre et la terre de notre ciel. Et ça met le monde entier en fureur. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se dévoile? C'est qu'il y a un conflit entre l'islam et le judaïsme, qui n'est pas un conflit théologique. Si l'anti-judaïsme politique de l'islam cesse, il se dévoilera que nous avons la même théologie du Dieu unique. La conception de la morale n'est pas la même. Mais la conception de la théologie est en tout cas compatible. Je pense que c'est clair. Je me souviens de conversations en arabe avec des musulmans d'Algérie quand j'habitais l'Algérie. Et où ils nous disaient qu'ils avaient des très jolies formules. Tu peux pas prier un peu pour moi. C'est l'arabe qui parlait aux juifs. Tu peux pas prier un peu pour moi. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Puis il dit, le ciel, c'est la maison de ton père. C'est comme ça qu'il parle. Mais la terre, c'est sa maison à lui. Tandis que le chrétien, c'est l'inverse. La contestation, c'est la constatation d'identité. Qui est Israël? Est-ce que ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont les Romains? Et il se dévoile que la chrétienté est en train de perdre cette contestation-là, de la même que l'islam est en train de perdre la sienne. Par conséquent, je crois que le devoir des chrétiens vis-à-vis d'Israël, c'est le devoir des chrétiens par rapport aux musulmans. Que les chrétiens nous aident à retrouver notre terre, nous les aiderons à retrouver leur ciel. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous lisez bien le Coran, vous verrez que l'anti-judaïsme du Coran vient des évangiles. Le Coran a hérité la haine des juifs des évangiles. C'est clair. Par conséquent, je crois qu'il y a là un devoir de rédemption de la part des chrétiens. Chaque fois que quelqu'un de l'amitié judéo-chrétienne parle avec autant d'ambiguïté que le fait, comment s'appelle-t-il, son nom échappe, Madol, okay. Quand il parle d'une terre sans peuple et d'un peuple sans terre, c'est ambigu, c'est hypocrite, on n'avait aucune idée à quel point. S'il avait le courage d'être chrétien des évangiles et d'expliquer à son collègue musulman que l'Arabie, ça se trouve en Arabie, et la Judée, ça se trouve en Judée, voix de chrétien, à ce moment-là, le dialogue pourrait se dénouer un peu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi nous finirons, nous, pas nous arranger avec les Arabes. Je ne sais pas comment on finira. Hussein, la Syrie après. On a du travail, mais on finira. Qu'est-ce qui arrivera ce jour-là du dialogue entre les juifs et les chrétiens? C'est dommage pour eux. Bien, je crois que l'heure est arrivée, mais nous allons reprendre tout ça demain matin.
Alors,
à demain.
Donc, sur la question qu'a posée le Maharal, étant donné la prophétie qui se trouve au chapitre 15, je vous rappelle la référence, versets 13, 14 et 15 du chapitre 15, concernant l'éventualité de l'exil, pas seulement l'éventualité de l'exil d'Égypte lui-même, qui sera immédiat et qui sera une sorte de modèle de préfiguration des autres exils des quatre empires. La question qui s'est posée, c'est pourquoi cet exil ne commence pas avec Abraham lui-même, puisque la raison de cela est trouvée à la racine dans le comportement d'Abraham. On va revenir en une seule phrase sur les explications précédentes, mais j'espère que vous les avez en mémoire. Et le Maharal a donné une première réponse à cette question. Étant donné que l'éventualité de l'exil est liée à l'identité d'Israël, c'est-à-dire à l'accomplissement des promesses qui concernent l'identité d'Israël, et en particulier la promesse de la terre de Canaan, de la terre d'Israël, seule la descendance d'Abraham concernée par cette promesse, qui est reprise cette fois par la suite, et sous la formule « le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac et à Jacob », donc seule la descendance d'Abraham par Jacob, à l'exclusion, pour exclure, la lignée d'Ésaü et la lignée d'Ishmaël doivent être considérées, concernées par l'éventualité de l'exil. C'est ce que nous avons vu assez brièvement, je pense que c'est suffisamment clair. Et par conséquent, l'exil ne peut commencer qu'avec les enfants de Jacob et pas du tout avec Abraham ou avec Isaac. S'il avait commencé avec Abraham, la terre aurait concerné Ishmaël. S'il avait commencé avec Ésaü, la terre aurait concerné aussi. Avec Isaac, la terre aurait concerné aussi Ésaü. Déjà même sans ça, on a des problèmes avec eux. Mais alors avec ça, Allah, c'est comme avec Abraham. À plus forte raison. Et vous voyez que l'histoire juive, c'est pas simple. Et là, ça c'était la première réponse. Maintenant le Maharal va commencer une deuxième réponse en montrant que cette éventualité de l'exil, comme finalement a posteriori nous l'avons connue, c'est-à-dire non seulement ne pas être chez soi, premier degré, non seulement être étranger ailleurs, deuxième degré, non seulement être, asservi, troisième degré, aliéné, mais quatrièmement persécuté, opprimé, tous ces niveaux-là qui sont indiqués dans le même verset, « Iger, Iezaacha, Beret Lolahem, Varabadum, Veinuota », voyez ces quatre niveaux. Et cela ne peut arriver que si ces tendances d'identité que nous sommes en train de définir à la racine, doute de soi, faiblesse de la foi, arrivent au niveau forte, puisque à la racine, au niveau des patriarches, il s'agit de vertu encore. Vous vous souvenez de cela? Et simplement se rappeler de l'intitulé de l'explication du Maharal, c'est une vertu de modestie, de cette manière d'être pris de vertige lorsqu'on entend cette interpellation des promesses de Dieu. Encore une fois, au point de départ de ce problème, la réaction de perplexité est une réaction positive. Si Abraham avait cru d'emblée en se prenant au sérieux, on ne serait pas tranquille. Enfin, je veux dire, ce serait suspect. Vous vous rappelez, nous avons eu souvent des analyses de cet ordre. Le véritable prophète est celui qui, au commencement, résiste. Celui qui ne résiste pas au début, c'est suspect. Il se prend, ça veut dire qu'il se prend pour un prophète. Vous avez compris ce que je veux dire. Et de la même manière, pour la foi, en général, si quelqu'un croit entendre des voix, il croit entendre des voix, alors il croit, c'est qu'il entend des voix. Vous comprenez. Et vous avez compris qu'il y a là, malgré tout, quelque chose qui concerne l'identité d'Israël, à la racine, comme dit le Maharal, et dans ces deux dimensions. D'un côté, ça peut être, c'est très positif, et c'est en tout cas le niveau où sont les patriarches. Mais d'un autre côté, cette même conduite peut se dévoiler comme une faute. Si on est arrivé à comprendre cette analyse, c'est l'essentiel. Or, le Maharal va nous expliquer que ce niveau de grandeur commence à Abraham, continue par Isaac, continue par Jacob, et c'est aussi celui des fils de Jacob, et c'est pourquoi l'exil qui se dévoile comme punition ne peut commencer que très tard. Lorsque ces grands-là auront quitté l'histoire, leur descendance va être mise en jeu dans cette même histoire, et c'est quand au niveau de leur descendance, dans sa petitesse, revit les mêmes conduites que là, ça se dévoile comme étant faute, possiblement. Voilà, si j'ai réussi à expliquer ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons plus vite avancer avec le texte du Maharal. Bien, s'il n'y a pas de questions, je propose donc de prendre le texte. Alors, je reprends depuis le début du paragraphe. Ve'od yeshlecha adam. Et aussi, tu dois savoir que l'asservissement ne peut pas concerner, n'est pas compatible. Ve'avgerut, et même le seul fait d'être étranger. Ailleurs, Be'Abraham, pour Abraham, qui kvar yadoa, car il est déjà connu, qui Abraham ou Eikar binyan haolam, qu'Abraham est l'essentiel de la restauration du monde. Vous vous rappelez du point de l'analyse où nous étions arrivés. Ça veut dire que Abraham, c'est déjà le premier dévoilement de l'être pour qui Dieu avait voulu créer le monde. Tant que l'être pour qui Dieu a voulu créer le monde n'est pas engendré, alors il y a une situation d'exil, parce que le fait d'être créature, c'est d'être en exil de Dieu. Mais lorsque ce stade provisoire de l'acquisition du mérite est achevé, l'être pour qui Dieu avait voulu créer le monde n'est plus dans la situation d'exil. Il est dans la situation de créature s'étant méritée elle-même face à face avec Dieu. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est-à-dire dans tout le temps que nous appellerons Olamazé, ce monde-ci, nous sommes loin parce que nous ne sommes pas encore proches. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous avons été mis loin du Créateur pour mériter d'être. Et tant qu'on n'a pas fini d'être mérité, on est loin. Mais dès qu'on commence à mériter plus, on est de plus en plus proche. Et par conséquent, tant que l'homme ne mérite pas, il est loin. Mais dès qu'il commence à mériter, il est proche. Et c'est Abraham qui commence à mériter. Par conséquent, Abraham ne peut pas être concerné par l'exil. Il est celui qui est de nouveau face à face avec Dieu. C'est pourquoi dans la Kabbalah, on a l'habitude d'expliquer, ce monde-ci, c'est l'exil. Le monde à venir, c'est le retour. C'est pourquoi le monde à venir s'appelle Olam HaTeshuvah, le monde du retour. Avec la différence qu'on revient avec le droit d'être, alors qu'on était parti pour acquérir ce droit d'être. Cette dialectique est celle de la création. Et donc, l'explication du Maharal est très précise. Par définition, Abraham ne peut pas être concerné par l'exil. Abraham est celui qui sort de l'exil. Est-ce que c'est clair? Et donc, s'il y a éventualité que malgré tout, il y a une remise en jeu de cette identité dans l'histoire, et l'éventualité de l'exil, ça ne peut pas le concerner, lui. Parce que dans son niveau de grandeur, ces conduites dont nous parlons sont des conduites de vertu, encore une fois. Ça ne pourra concerner éventuellement sa descendance que si ces conduites deviennent ambiguës et dévoilent une faille d'identité. D'ailleurs, je vous invite à assister au débat de ce soir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. D'ailleurs, vous avez le plan du séminaire. Okay, parce que vous allez avoir encore une fois l'exemple de cette ambiguïté. Vous allez inévitablement dans la salle, il y aura un juif pieux qui se lèvera et qui me demandera si je suis sûr que le Messie est arrivé. J'aurais beau lui répondre Messie, Messie, il y croira pas. Mais le fond du problème, c'est que c'est pas le problème. Le fond du problème, c'est de savoir si les juifs ont suffisamment foi en eux pour savoir que les promesses de leurs ancêtres les concernent. Et c'est ça le fond du problème. Et alors la manière dont on dit qu'on n'a pas confiance en soi, ça se dit chez les juifs pieux, j'attends le Messie. Je ne sais pas si vous avez compris le lien. Bon. Et moi c'est bien que vous êtes privilégiés, parce que vous lisez ça dans le Maharal, okay, mais qu'on ne peut pas dans un débat faire comprendre ça à quelqu'un en une phrase. Il faut lui dire, va étudier un petit peu de Torah. Et il vous répondra, mais je fais que ça. Non, tu étudies la religion, c'est un peu différent. Vous avez compris. Dans la Torah, il y a la religion, mais ne me faites pas dire que je n'ai pas dit que. Et alors, on revient au problème. Donc, on entend du Maharal qu'Abraham ne peut pas être concerné par l'exil. Qui Abraham ou Icar Binana Olam, chez Vishvilo Nibra Arodam. Pour qui le monde a été créé. C'est ça la clé. Vous remarquez d'ailleurs à quel point les textes des grands maîtres doivent se lire à la lettre. Chaque mot est important. Et je ne sais pas la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis du Maharal. Il a d'ailleurs attendu l'âge de 80 ans pour commencer à écrire. Ça vous explique des mystères. Okay. Et il dit lui-même, il n'était pas sûr de savoir comment il fallait écrire avant cet âge-là. Et il nous a donné des kilomètres de petits mots comme ça. Mais en tout cas, c'est pour dire à quel point il faut lire les choses comme elles sont écrites, très exactement. C'est-à-dire, ces livres doivent être pris à la lettre, littéralement. Bon, mais pour ça, il faut apprendre l'hébreu. Donc aller à l'Ulpan, ne pas trop manquer les cours, et puis continuer. Alors je reviens au problème. En plus, il y a là-dedans un humour colossal. Enraoui, il n'est pas convenable chez Abraham, guerre, qu'Abraham soit guerre. Or, c'est le premier des guérim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est joli, en plus. Tout le monde a compris qu'est-ce que ça veut dire. L'Avalga, et bien que chez Katou, qu'il soit écrit, ou Moshav, Bene Israël, Ben Mitzrayim, et l'habitation, Moshav, la résidence, le temps de résidence des enfants d'Israël en Égypte, Arbarmeot, Shloshim, Shana, c'est dans le chapitre 12 de l'Exode, 430 ans, j'ai parlé de ces chiffres hier. Bien qu'il soit écrit que les Bnei Israël ont résidé dans le lieu de la civilisation du temps qui en fin de compte s'appelle l'Égypte, 430 ans, et cela, ce n'était possible. 430 ans, Rak Im Yeshivat Abraham, que Abraham y compris. Puis c'est 430 ans jusqu'à la sortie d'Égypte, sont comptés depuis le moment où Abraham entend ce verset, entend cette vision, savoir tu sauras que ta descendance. Verod Nehemar, pour le moment, le Maharal s'objecte à lui-même. Il va nous dire l'exil ne peut pas commencer avec Abraham. Or, tu peux objecter qu'il y a un verset qui dit 430 ans. Et ces 430 ans, ça inclut Abraham. Verod Nehemar aussi, il est dit, au chapitre 21, là vous avez une faute. Attendez, je prends ma loupe parce que c'est un mot bizarre. Oui, c'est une faute. Vous avez Vav, Yud, Resh, Gimel. Il faut mettre le Gimel avant le Resh. Vayagor, Abraham. Et Abraham séjourna Beret Plishtim, dans le pays des Philistins, Yamim Rabim, de très nombreux jours. Aïnou Evadai, Shelonatan Noaret Adai Neirusha. Ça veut dire que ce n'était pas encore le temps où Dieu avait donné à Abraham la terre en héritage. Ça ne veut pas dire qu'il était en exil. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Ça veut dire qu'il était sur sa terre, mais sa terre appartenait encore, disons, à l'Empire britannique. Mais ça ne veut pas dire qu'il était en exil à Chicago ou à Sarcelles. Vous comprenez la différence pendant tout ce temps. Nimsa, Aval Shei Nimsa Bo Roshem Gerut Lo Ayaze. Mais qu'il ait expérience de qu'est-ce que ça veut dire être en exil, ça, ce n'était pas le cas. Voilà, c'est bien compris la réponse du. Vekan, Bal Irmoz, Al Roshem Gerut. Alors que là, est-ce que j'ai sauté une ligne? Non. Alors que là, dans le verset de la prophétie à Abraham, que je reprends, c'est le verset 14 du chapitre 15, Yador Tedar qui guère Iez Arachin, savoir tu sauras que ta postérité sera étrangère, guère, ça commence, nous dit le Maharal, avec Isaac. Donc le premier argument, c'est qu'Abraham, même pas guère, avec Isaac, ça commencera à guerre, parce que c'est annoncé pour sa postérité, Zarao, et que la postérité d'Abraham, concernée par les promesses, commence par Isaac, qui, le verset dit, qui, Be Yitzhak, Ikare Lecha Zara. Lorsque Abraham doute, est-ce que ça passe par Ishmael, Est-ce que ça passe par Isaac? Le verset lui dit, c'est en Isaac que ta postérité est appelée postérité. Ishmaël, c'est quoi? C'est des enfants que tu as avec Agar. Et pour que tu saches la différence, Ishmaël, tu peux en faire des millions, de millions, de millions. Isaac, il y en a un seul et c'est très difficile. Vous avez compris la différence. Donc je reprends cette phrase. Vekan Balirmoz, Agroche et Magirut, Shayahal, Alitzrak, Vezaro. Là, dans notre verset, l'allusion est à l'expérience du fait d'être étranger qui concerne Isaac et sa postérité. Il est Ershéi, quoi qu'il en soit, dit le Maharal. En Raoui, Ershéi, Abraham, Bichla Lagerou, il n'est pas convenable, il n'est pas normal qu'Abraham soit concerné par l'étrangéité. Claro, en aucune manière. Kol Sheken, à plus forte raison, Shiabud, asservissement, Shelo Shayar, Père Abraham, ça ne concerne pas Abraham. L'idée est la suivante. Dans les débuts de ce temps-là, des voyages d'Abraham, par exemple en Égypte, il est reçu avec le plus grand kavod, le plus grand honneur. Il est Abraham, l'hébreu, le porteur du salut possible. Et pas du tout ce juif de l'exil que sa descendance risque d'être plus tard. Voilà quelle est l'idée. Là. Est-ce que c'est clair? Par exemple, lorsque Abraham arrive là où il arrive, que ce soit en Eretz Plishtim, le territoire de Gaza, d'Abimelech, que ce soit à Hebron, que ce soit en Égypte, on l'accueille en lui disant « Nessi Elohim ata bekirvenu » « Tu es un prince de Dieu parmi nous. » Est-ce que c'est clair? Lorsque Jacob arrive chez Laban, alors qu'il se prépare à le haïr de tous les antisémitismes possibles et imaginables, il l'accueille en disant « Bo beruch Elohim »« Viens, béni de Dieu ». À ce niveau-là, pas question de parler guerre, shiabud, asservissement, ennui, persécution. C'est dans la racine de son identité, cette identité Israël est connue comme telle. Vous voyez donc pourquoi le Maharal prend son temps pour nous expliquer que l'exil ne pouvait pas commencer au niveau des patriarches eux-mêmes, ni même des enfants de Jacob eux-mêmes, ils sont d'une grande grandeur. C'est après, plus tard, quand on parlera de l'identité d'Israël comme une référence de mémoire perdue, retrouvée, ça c'est les livres contemporains, Ken, à ce moment-là se dévoile que cette mise en jeu de cette identité dans l'épreuve de l'histoire, lorsqu'elle concerne les petits individus que nous sommes, risque de dévoiler des failles d'identité. Je crois que l'idée est suffisamment claire. Alors c'est à ce niveau-là que la persécution est éventuelle. Chez Af Yitzhak, Loï Kalel Beshemut Klal. Donc Yitzhak, lui, aura l'expérience d'être étranger. Et c'est pour vous trouverez plusieurs versets, en particulier un verset qui nous dit que Vayeshev Yitzhak Bugrar. Yitzhak s'est installé dans un endroit du pays, c'est le pays du Canaan d'Israël, qui s'appelle Gerar, Gimel Rechlech, l'endroit des. Le ghetto, Gerar, Ken, l'endroit des étrangers. C'est-à-dire, il s'installe là où on est étranger. Ça veut dire, lui, Isaac, a pris sur lui cette expérience, mais pas Abraham. Vous voyez comment on va descendre de degré en degré. Mais en tout cas, Isaac, asservissement, clair, en aucun cas. Rak Begerut, simple, seulement. Le fait de se savoir étranger. Qui, à Shiaboud, itril me'et shayu shivim nefesh. L'asservissement n'a commencé que lorsque Israël a été au nombre de 70 personnes. Certains d'entre vous se souviennent de la signification de ce thème. Le chiffre de 70 est toujours employé pour dire la multiplicité. C'est-à-dire lorsque l'identité Israël se démultiplie au niveau de 70 visages possibles parce que là, la relation avec l'universel humain va commencer, les 70 nations. Il faut donc qu'il y ait capacité de 70 juiveries différentes pour que l'exil commence. Est-ce que c'est suffisamment clair? Israël, c'est pas un peuple en exil chez un autre peuple. Lorsque l'exil apparaît, Israël est en exil dans l'universel humain. Quand on s'exprime, le niveau où Israël est concerné par l'exil, c'est le niveau de dégradation de la multiplicité au niveau 70. Est-ce que c'est suffisamment clair? Or, ça n'arrivera qu'avec la quatrième génération à partir d'Abraham. Même la troisième, non, la cinquième génération. Même la quatrième, les fils de Jacob, eux, ne sont pas encore tombés à ce niveau de 70. Ils sont encore au niveau 12 qui sont 13, qui est déjà multiplicité de 1. Mais de 1 multiple, du multiple de 1, 70 est déjà le multiple du multiple. Justement, c'est là que ça va commencer. Et tant que les 13 vivaient, ils n'ont pas été persécutés. Les 13, c'est-à-dire les fils de Jacob. Quand les fils de Jacob sont morts, la persécution a commencé. Vous savez, les premiers versets du livre de l'Exode. C'est clair ? Vayamot Yosef Vecholecha Vecholadora. Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération. Alors, le pharaon a dit, tiens, nous avons des Hébreux parmi nous. Si on a inventé un statut des Juifs. C'est comme ça que ça marche. Mais tant que les modèles de l'identité étaient là, c'était le peuple des bergers, enfin tout ce thème de ce dont l'Égypte manque, c'est les bergers, parce qu'ils ont les bergers en horreur, vous rappelez de tout cela. Quelqu'un avait posé une question, oui.
Le chiffre, le nombre de 70, si j'ai bien compris, est à temps pour figurer.
Non, malheureusement au réel. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est-à-dire que le temps où l'identité Israël passe de l'unité à la multiplicité commence dès qu'ils sont 70. Vous avez ça dans la fin, le Parshat Vayechi, le chapitre 40 de la Genèse. On vous donne les noms de ces 70 descendants de Jacob. Okay. Mais il y a deux niveaux. Il y a les fils de Jacob qui sont 13, 12 qui sont 13. Et ensuite, avec leurs propres enfants, ça fait 70. Et de la même manière, lorsque la diaspora humaine a commencé, chapitre 11 de la Genèse, il y a, nous dit la Bible, 70 nations. Ce sont 70 nations de base. Les peuples, aujourd'hui, c'est l'infinité des combinaisons possibles de ces 70 identités de base. Et chacune d'entre elles est géniale pour elle-même, mais elle est une parmi les autres, partielle, et donc partiale. Israël, c'est cette même identité humaine, à l'indice de l'unité indexée à la multiplicité humaine. Et donc cette indexation, si j'ose dire, qui va s'appeler l'exil, lorsque se dévoilent les failles d'identité, ne peut commencer que lorsque le visage d'Israël est déjà capable de se démultiplier en 70 visages. C'est plus clair maintenant. Donc, Ken, oui, pardon. Ah, c'est pourquoi, très bien. C'est pourquoi j'ai dit démultiplier. Et je vais reprendre ça, c'est une bonne question.
Répète la question peut-être.
La question c'est, il est dit dans la Bible qu'on doit se multiplier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que se démultiplier c'est une malédiction? Je pense que vous avez déjà compris par vous-même. Mais quoi? Qu'on ne peut pas étudier en français? Parce que bien que les mots sont précis en français, mais les implications sont différentes. Alors je reprends ce problème. Le verset de la bénédiction à l'humanité qu'on traduit en français par « croissez et multipliez-vous », il faut d'abord l'entendre un peu autrement, peut-être dans l'ancien français. Parce que dans le français moderne, c'est presque des synonymes, « croître et se multiplier ». En hébreu, c'est « peru urbu ». Et en hébreu, ça veut dire « peru », donner un fruit, « pris le fruit, fructifier ». Et fructifier en français, ça ne veut rien dire. Essayez de comprendre ce que ça veut dire en français étymologique. Qu'un arbre a donné un fruit. Il y a deux choses en même temps. L'éternité, dès que l'arbre a donné le fruit, il est éternel. Parce que le fruit va donner des arbres qui vont donner des fruits, Netzach Israël. Et deuxièmement, qu'il y a plus dans le fruit que dans la cellule de l'arbre, sinon ce n'est pas un fruit. C'est clair. Et c'est la promesse de fécondité dans toutes les dimensions. De la bénédiction de fécondité. Qu'est-ce que c'est qu'un être béni? C'est un être qui est plus que lui-même. C'est, je crois, en français, la notion de fécondité. Il faut être fécond pour être capable de bénédiction. Et que ça veut dire être capable de bénédiction, ça veut dire être fécond. Un être qui est plus que lui-même, une chose qui est plus qu'elle-même, c'est ça la bénédiction. Et après seulement, deuxième mot, urbu et multiplier. Ça veut dire quand vous aurez donné le fruit, multipliez-le. La catastrophe, c'est quand on multiplie avant que le fruit ne soit donné. C'est-à-dire qu'on multiplie des ébauches, des débrouillons d'identité non fructifiés. Donc s'il n'y a que multiplication, c'est malédiction. S'il y a fructification d'abord, c'est bénédiction. Vous avez compris le problème? Et je vais essayer de vous le confirmer. Est-ce que vous avez apporté des livres de la Genèse? En tout cas, ceux qui ont des livres, prenez-les. Je vais vous donner un verset que nous allons étudier maintenant. Dans le chapitre 6, je pense. Nous avons touché à un problème contemporain très grave, qui est celui de l'expansion démographique. Nous verrons que chaque fois qu'une catastrophe arrive, et on va prendre l'exemple de la catastrophe du déluge, elle est annoncée par une expansion démographique. Alors, on va le voir dans le verset. Eh bien oui, c'est le premier verset du chapitre 6. Voilà ce que dit le verset. Oui, il arriva. Qui est Adam Laro al pene Adama? Lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre. Vous allez vérifier dans vos livres en français que c'est comme ça qu'on vous dit et c'est faux. Mais je reprends comme on vous a dit. Oui, et il arriva. Qui est Adam? Lorsque l'homme eut commencé Laro à se multiplier al pene Adama sur la surface de la terre. Lisez comment c'est écrit en français. Là.
Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre.
Bon, mais c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Regardez juste la suite. Ubanot yuldu lahem. Et des filles leur furent enfantées. Regardez l'incohérence de ces traductions. Pour que l'homme se multiplie, il a besoin et de filles et de fils. Qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Lorsque l'homme eut commencé à se multiplier, alors ils eurent des filles.
Bon, voilà, je vais...
Le livre d'Enoch donne, je crois, cette
formulation. Oui, mais non, mais c'est aussi la traduction, ça c'est la traduction du rabbinat français. J'ai pas dit qu'il comprend pas l'hébreu, mais il comprend pas le français. Oui. Et je vais terminer, je vais expliquer si vous restez. Oui. Vous savez, je vous ai dit une fois, et je vais vous expliquer, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans ce verset. Et... De temps en temps, si vous prenez la Bible du rabbinat, vous verrez que non, ils font des essais d'extinction de pouvoir là-bas. Et de temps en temps, vous avez en bas de la page une petite note, verset obscur. Vous remarquez ça? La seule consolation que j'ai eue, sens obscur, la seule consolation que j'ai eue, c'est quand j'ai pris des Bibles chrétiennes, il n'y a jamais marqué en bas ça. Parce que ce n'est pas nécessaire. Je reviens à Ken, pardon. Mais j'ai pas encore expliqué, mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Être plus que soi-même, être béni, c'est aussi une forme de processus d'individuation en ce qui concerne l'être lui-même.
Très bien.
Par la lettre, prendrait tout son sens.
À condition que l'individuation vienne après la fructification. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Les engendrements ont deux dimensions. Pérou, c'est donner le fruit, être capable d'être plus que soi. C'est l'indice de la bénédiction. Alors cette bénédiction va être multipliée. Et elle sera multipliée, pas démultipliée. Si l'indice... Avec presque le même accent et avec une signification très différente. Je vais vous dire le mot d'abord en arabe. Bracha en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent l'arabe? Bracha en arabe. Satiété. Très bien. Vous voyez? Bracha, ça veut dire abondance. J'ai eu beaucoup d'ail. J'ai assez mangé. Bracha. Okay. En arabe. Alors qu'en hébreu, bracha, ça veut dire fécondité. Je dirais, en paraphrasant, il faudrait Claude Vigée pour arriver à traduire. Je vous dis, j'ai mangé d'un fruit, c'est ça que ça veut dire bracha en hébreu. Tandis qu'en arabe, ça veut dire j'en ai marre, il y en a trop. Taille. Vous avez compris la différence.
Eh bien, c'est ça la différence. D'un côté, il n'y a perception que du nombre, et les théologiens musulmans disent que le nombre, c'est la malédiction. Ce qu'on a un peu étudié, la théologie musulmane de l'islam, savait cela. Okay? Le créé est le multiple, et le multiple est maudit. L'un est béni. Tandis qu'en hébreu, la perception, c'est la perception de l'espérance portée pour l'avenir. Le signe de la bénédiction, c'est le sourire de la Vénus de Milo. Je vais vous expliquer tout de suite. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, c'est ce sourire mystérieux. À la Joconde, c'est vrai. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est un peu grec, ce sourire-là. Et ce sourire mystérieux dont on a finalement découvert le secret, c'est que cette femme était enceinte. Vous savez ça? Non? Oui, elle était enceinte. Alors essayez un jour de regarder pas trop, ça se fait pas. Une femme enceinte, vous verrez de quoi il s'agit. C'est-à-dire, ce mystère de la fécondité. Je vais vous expliquer ça très rapidement par le verset, après on reviendra à un autre verset. Le verset dit ceci. Et Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez. Le Talmud pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, il les bénit? Est-ce que ça peut vouloir dire que Dieu a dit à l'homme et à la femme que Dieu vous bénisse? C'est lui Dieu. Ça veut dire il les a rendus bénis. Ça veut dire il les a rendus féconds et il leur a dit, maintenant que vous êtes capables de cela, croissez et multipliez. Et encore, croissez dans le sens de fructifier. Okay? Croître et fructifier dans l'ancien français. Et c'est pourquoi pour la halakha, on a accompli ce commandement que si on a au moins un garçon et une fille, un garçon pour le principe de la fructification et une fille pour celui de la multiplication. Et on remettra d'ailleurs un autre verset. Il y a une discussion d'ailleurs entre Beth Hillel et Beth Shammai. Selon Beth Shammai, il faut deux garçons et une fille. Parce qu'on ne sait jamais, il y en a un des deux qui peut aller à la guerre. Tandis que pour Beth Hillel, ça suffit un garçon et une fille, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura la paix. Mais on a l'habitude d'être, comme on dit, mahmir dans cette mitzvah. D'être très pieux dans cette mitzvah. Alors on a le plus de garçons possible et le plus de filles possible. Mais la halakha est que ça suffit qu'il y en ait un de chaque pour avoir accompli son devoir. Vous avez compris le mot. Bon, et en plus, il faut avoir des enfants, c'est notre problème. Mais là, je veux dire, par exemple, si on n'a que des garçons, il faut continuer jusqu'à ce qu'il y ait une fille. Et si on n'a que des filles, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait un garçon. Vous voyez, c'est une des raisons de la nécessité de la polygamie. Mais c'est un autre problème. En tout cas, j'ai dit bien une des raisons. En tout cas, pour revenir à notre question, c'est... Le sens du mot français, le genou, qui se dit en hébreu berer. Pourquoi le genou se dit berer? C'est parce que c'est l'endroit où la femme reçoit la bénédiction. Alors le genou s'appelle birkaïm, au duel, c'est l'endroit où l'on reçoit la bracha. Alors le genou, ça s'appelle berer. Vous avez compris le lien qui est en hébreu? Parce que si vous posez la question au niveau de la grammaire habituelle, pourquoi en hébreu on emploie le mot de bénédiction pour dire le genou, vous risquez d'avoir des professeurs de grammaire qui vous répondent du dedans des catégories françaises, parce qu'au Moyen-Âge, pour recevoir la bénédiction, on pliait le genou. Je trouve en tout cas. C'est rien à voir. Vous suivez? Peut-être vous avez entendu des choses comme ça. Et alors, je vous donne un exemple. Lorsque Rachel est encore empêchée d'enfanter, elle dit à Jacob, prends ma servante et elle enfantera sur mes genoux. Oui, vous vous rappelez du verset? Vetelled al birkai. Ça veut dire je l'adopterai l'enfant. Dans certaines communautés, peut-être vous en souvenez encore, certains d'entre vous, la veille de la circoncision pour les garçons et le jour de la nomination pour les filles, il y a une cérémonie. On se réunit dans la maison. Et puis, il y a, la communauté se forme et on prend l'enfant, chacun un tour de rôle sur ses propres genoux. Vous connaissez cela? Mm-hmm. En Algérie, ça s'appelait le doram. Je sais pas, mais vous avez perdu la mémoire. Hein?
En Tunisie, voilà, c'est les cousins. Et alors, c'est une très belle cérémonie d'ailleurs, par laquelle la communauté adopte cet enfant avec Elsine en le plaçant sur ses genoux. C'est clair. Ça, c'est tunisien ou algérien? Parce que lorsque l'enfant naît, comment dirait Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît, il atterrit sur les genoux de la mère. C'est clair. Et alors vous allez me dire, et ceux qui n'ont pas d'enfants? Eh bien, ça c'est un problème important dans l'ordre du thème des engendrements. Selon la halakha, il suffit d'adopter un enfant pour que ça soit la même chose. Bien sûr, selon la parhalakha, je ne sais pas comment dire, selon la vie, c'est pas exactement la même chose, c'est sûr. Mais du point de vue de la destinée de cette famille ou de cet engendrement, c'est la même chose. Le fait d'avoir un élève ou d'adopter un enfant, c'est la même chose que de l'avoir engendré. Vous avez compris le... Bon. Parce que les raisons pour lesquelles il arrive qu'on n'ait pas d'enfant, c'est très compliqué. Mais ça ne met pas en jeu le goral, la destinée de cette lignée. Oui, vous avez pardon. La quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire la perception du nombre? Je ne comprends pas.
Tout à l'heure, vous aviez dit que la verraha en arabe, ça voulait dire, ça suffit, c'est la perception du nombre, donc c'est une malédiction.
Non, j'ai dit que s'il n'y a que le nombre dans le sens de grand nombre, oui, oui, il y a un lien. Il y a un lien. En tout cas, je reviens au verset du déluge, okay. Mais d'abord, une petite précision là-dessus. Prenez le même mot, barer, qui signifie bénir en hébreu, barer. Il y a des hébraïsans parmi vous et vous savez qu'il y a des cas où ce même mot de barer qui signifie bénir signifie maudire. Vous savez cela? Parce que le sens fondamental, c'est la densité de l'être. C'est sa bracha. L'être qui est plus que lui-même. Alors si c'est trop dense, ça devient malédiction. Est-ce que c'est clair? Faire venir plus. Si c'est adapté à la capacité de réception, c'est bénédiction. Si c'est trop et qu'on ne peut pas recevoir, parce qu'on ne mérite pas encore assez, en hébreu c'est le même mot, alors il y a malédiction. Je vous donne l'exemple que je donne le plus souvent. Pour que la lumière brille, il faut faire passer un courant dans l'ampoule. Si le courant est trop fort, l'ampoule éclate. Vous voyez à peu près le problème. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons recevoir qu'au niveau du mérite. L'exigence de recevoir est totale, mais nous ne pouvons recevoir qu'au niveau du mérite. Oui. Parle plus fort. Oui, sans entrer, si vous voulez, dans le contenu des termes, les choses doivent arriver en...